Bon matin à tous. Vous allez bien? All right. Super, on s'entend. OK. On va juste mettre dans le contexte un peu. Le passage que j'ai choisi, c'est Juges 2. Pour le démontrer ou l'illustrer, je vais justement parler un peu de ce qui se passe cette année. Qu'est-ce qui se passe en 2014 qui est spécial aux 4 ans? Quelqu'un qui sait? Les Olympiques. Excellent. Alors, moi, je ne parle pas des Olympiques d'hiver, mais les Olympiques d'été. Et puis, je parle du course à 100 mètres, 4 fois 100 mètres. Et un phénomène qui s'est passé dans plusieurs Olympiques. Et puis, tout est dans la course à relais, dans le transfert. C'est bien important. Au point qu'il y a un pays qui va regretter d'avoir mal fait le transfert pendant 3 séries d'Olympiques. Je vais faire un peu d'histoire avec vous autres. Alors, mes deux braves volontaires vont venir pour faire la démo. Dans la course olympique, on retourne en arrière, aux premiers Olympiques, les Américains, 4 fois 100 mètres, c'est des filles, ils ont les 4 coureuses les plus vite. Alors, ils se placent, mais entre le premier et le deuxième coureur, okay, il y a eu un mauvais transfert de bâton, qui est justement hors de zone, et puis, ça leur a causé une médaille bronze à cause du mauvais transfert, juste à cause de le transfert. Les Américaines, je répète, il y avait les 4 coureuses les plus vite au monde, mais ils n'ont pas gagné la médaille d'or en Sydney 2000 parce que le transfert entre la première personne et la deuxième personne s'est mal passé. Je pensais que c'était votre zone. Voulez-vous mettre ici? Oh, tiens, on va mettre la zone ici. C'est la zone, oui. Il faut bien démontrer la zone. Parce que si tu fais ça hors de la zone, le transfert, t'es disqualifié. C'est bien important. Alors, j'avance au prochain Olympique qui va coucher cher. En Athènes, en 2004, encore, les Américaines, il y avait les 4 coureuses les plus vite au monde. Ils auraient dû gagner facilement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La 3e coureuse a ralenti trop. La 4e coureuse a essayé de pogner le bâton, a eu de la misère. Et puis, elle est partie. Ça n'a pas fait le transfert comme c'est passé. Puis, ils ont été disqualifiés à cause que Joël est parti hors de la zone réglementaire. Alors, ça a encore coûté la médaille d'or aux Américains en 2004. Ils ne comprennent pas c'est quoi qui leur manque. Ils ont les 4 coureuses le plus vite au monde, mais le transfert se passe malement. En 2008, les Olympiques, c'était en Chine, Beijing. Ici, ça va être le tout de le tout, le fiasco total. Entre le 3e transfert et le 4e, il y a un échappe de bâton. Croyez-vous ça, mesdames et messieurs, un échappe de bâton. Il faut que Joël retourne en arrière, chercher le bâton et continuer la course. Mais là, il est trop tard. C'est sûr qu'il ne rapporte pas la médaille d'or. Alors, 3 Olympiques, aucune médaille d'or, juste à cause du transfert, qui doit se faire dans 1,9 secondes aux Olympiques. Et puis, le dernier transfert, vous allez bien le faire. En 2012, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, là, on a mis le paquet pour ça, que ça se passe comme il faut. Ils ont bien fait le transfert, les 3 transferts, et puis ils ont emporté la médaille d'or en 2012, finalement. Alors, on les applaudit. Merci les gars, super. Ça pour démontrer que les coureuses peuvent être les coureuses les plus vite au monde, mais ça ne change rien. Si le transfert ne se passait pas bien, ils n'allaient pas porter la victoire. Et ceci, on peut faire une illustration, un parallèle avec la vie spirituelle. Nous aussi, on est engagés dans la course de Christ. Et puis nous aussi, on court la course. Mais c'est bien important de bien faire le transfert à la prochaine génération. Comme j'ai dit, ce transfert-là, ça se fait dans 1,9 secondes aux Olympiques. Et puis, ça doit se faire d'une façon très précise, pas maladroitement, mais exactement la précision. Et puis, nous sommes ici, quand vous pensez à ça, votre foi chrétienne, vous êtes arrivés ici, probablement parce que quelqu'un vous a parlé du Seigneur. Il y avait du monde avant nous qui était là. Et puis, il va y avoir des gens qui vont courir la course après nous. Ça a l'importance comment les coureurs courent, oui, c'est vrai, mais aussi c'est important comment ils vont courir l'échange, comment ça se passe. Puis la même chose avec nous. Qu'est-ce que nous faisons présentement avec le bâton de la foi que Dieu nous a confié? Et puis, comment est-ce qu'on va le transférer à la prochaine génération? On ne peut pas se permettre de l'échapper, comme on a vu au 3e Olympique avec Joël et puis Alexandre, le bâton dans la zone spirituelle. Dans la Bible, on va regarder un passage où il n'y a pas eu un transfert. Ils ont échappé le bâton. Premier passage qu'on va regarder, c'est un mauvais exemple. Et ensuite, on va regarder des bons exemples de transfert. dans la Bible. Et ensuite, finalement, on va faire quelques exemples parmi chez nous de transfert de bâton et l'application à la fin. Alors, premier texte qu'on va regarder, c'est Juges 2, versets 6 à 8. Et ensuite, versets 9 à 13, Raphaël va nous lire Juges 2, 6 à 8, un mauvais exemple de transfert de la foi. Non. C'est bon.
Après que Josué eut renvoyé le peuple, les Israélites se rendirent chacun dans son patrimoine pour prendre possession du pays. Ils servirent l'Éternel pendant toute la vie de Josué et après sa mort, tant que vécurent les responsables qui avaient vu toute l'œuvre de l'Éternel en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. On l'enterra dans le domaine qu'il avait reçu pour propriété à Timnath-Hérès, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gash. Tout de suite, les générations disparurent à leur tour. Une nouvelle génération se leva qui ne connaissait pas l'Éternel et n'avait pas vu les œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Alors les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal et ils se mirent à rendre un culte au dieu Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le dieu de leurs ancêtres qui les avait fait sortir d'Égypte, et se rallièrent à d'autres dieux, à ceux des peuples qui vivaient autour d'eux. Ils se prosternèrent devant ces dieux et irritèrent l'Éternel. Ainsi, ils abandonnèrent l'Éternel pour rendre un culte aux Baal et aux Astartés.
Merci, Raphaël. Super. Alors, quel désastre ou quel passage triste de la Bible, qu'après avoir vu une génération, tous les miracles que Dieu a fait pour eux, fendu la mer Rouge en deux, la mer Morte, ils ont nourri pendant 40 ans dans le désert avec la manne, l'écaille, ils ont fait l'eau sortir des rochers pour qu'il y ait de l'eau, qu'ils ne crèvent pas de faim et de soif. Et puis, il va même clairer toute la terre promise à eux autres, il va les tout conquérir, ils vont faire tomber les murs de Jéricho, tuer toutes sortes de rois, toutes sortes de peuples, mais la génération après ça, ils ne serviront pas l'Éternel parce que les anciens et puis Josué n'avaient pas réussi à transmettre le bâton de la foi à la prochaine génération. Regardez ici, dans le passé, Moïse avait eu justement Josué qui avait reçu le transfert du bâton de la foi. Mais Moïse, on savait que Josué, son compagnon, c'était Caleb, les deux, mais Caleb le vieillard était vaillant, mais peut-être que le peuple aussi, ensemble, ils n'ont pas pensé à la prochaine génération qui allait justement courir sans le bâton de la foi. Alors, comme j'ai dit, il y avait des gens avant nous, et les gens qui vont courir la course après nous. On voit ça dans Hébreux 12, verset 1, et puis Hébreux 11, 36 à 38. Raphaël va nous lire ces deux passages-là.
Hébreux 12, 1, « C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous a proposée. » Excusez. Hébreux 11, 36 à 38. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été tués à coups de pierre, d'autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtue de peau de mouton ou de chèvre, dénuée de tout, persécutée et maltraitée. Eux dont le monde n'était pas digne. Ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre.
Merci, Raphaël. Super. Alors, comme on voit dans Hébreux 12, il y avait les témoins, des gens qui étaient là avant nous, qui ont justement fait la bonne chose. Mais pour ces Juifs-là qui se convertissaient, qui souffraient plus à cause qu'ils étaient convertis au christianisme, ils se posaient la question, est-ce que je suis dans la bonne voie? Je n'étais pas au christianisme avant. Je suivais la loi juive, ça allait bien, j'avais des richesses. Et là, je perds tout, je souffre. Mais Paul va les exhorter justement à dire, comme dans chapitre 11, vous êtes dans la bonne voie. Il y en a des gens qui ont souffert avant vous. Et puis, vous voyez leur foi, ils n'ont pas renié le Seigneur Jésus. Vous faites la bonne chose. Puis on sait, ultimement, notre Seigneur Jésus, justement, il a souffert ultimement pour nous. Alors, courage, chrétien, car vous êtes en train de faire la bonne chose. Souffrez pour Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans le moment de l'histoire où que Dieu a placé, on peut dire, le bâton de la foi dans notre main. Et nous, on a un devoir de la placer dans la main de la prochaine génération. Lorsque Dieu nous a sauvés, ce n'était pas justement pour que nous, on court la course, puis qu'on l'ait, puis on garde pour nous-mêmes. On regardait ensemble dans Éphésiens 1, verset 4. Je vais vous lire ensemble. Alors, Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Moi, j'aime ce passage-là. Avant la fondation du monde, nous, on n'est pas le produit simplement du temps, mais un produit de l'éternité. Dieu nous avait prédestinés d'être ses enfants d'adoption, même avant la fondation du monde. Et puis, on va regarder Éphésiens 2, 10. Pourquoi? Le pourquoi que Dieu nous a choisi, car nous sommes son ouvrage et étant créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu nous a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Car nous sommes son ouvrage et étant créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alors on a été sauvés pas par les œuvres. Je sais, des fois on réagit parce que l'Église catholique nous a tellement dit qu'il faut faire des bonnes œuvres pour atteindre notre foi qu'on ne réalise pas qu'on a été sauvés et ensuite Dieu nous demande de faire des bonnes œuvres. On a été sauvés par la foi, mais pour de bonnes œuvres plus tard, pour les faire, pour les accomplir en Christ. Des œuvres, comme il dit, qu'il a préparées d'avance pour nous. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit de priver l'Église de Christ de nos dons, nos talents que Dieu a préparés et nous a laissés pour justement laisser à la prochaine génération et faire profiter le corps de Christ. Ce que nous faisons aujourd'hui va influencer l'Église d'aujourd'hui et de demain, ultimement. Dans le pratico-pratico, regardons ce que nous faisons avec ce bâton. Ça va faire une différence vraiment dans l'Église de Christ. Il faut y penser. Il y a des exemples clés dans la Bible de gens qui ont réussi à transférer le bâton. Mon exemple suprême, c'est Jésus-Christ. Vous vous souvenez, il a enseigné les disciples pendant 3 ans de temps. Et puis, lui, il leur montrait comment vivre. Il les coachait pendant ces 3 ans. Il leur donnait des tests de foi, exemple lorsqu'il marchait sur les eaux, et puis les disciples ne l'ont pas reconnu. Seulement Pierre qui a décidé d'aller marcher, mais même là, il regardait en arrière et puis il a coulé. Et ensuite, il les renseignait encore plus, puis il leur donnait un autre test. Mais même juste avant de mourir, après avoir passé tant de temps avec Jésus, les disciples, on voit de quoi qu'ils discutent. Le prochain passage le montre, c'est dans Marc 10, versets 35 à 37. Je vois, si vous voulez, Marc 10, 35 à 37.
Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, viennent lui dire, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » « Donne-nous, lui dirent-ils, de nous asseoir l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » 41. Les 10 autres qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. 43. Il n'en est pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous.
Merci. Super joyeux. Alors même quelques chapitres avant la croix, quelques temps avant la croix, Jésus doit leur renseigner l'importance de servir les autres et pas de rechercher d'être le plus grand parmi les autres, comme les autres ils voulaient. Et puis même, on voit que juste avant d'aller à la croix, à la Sainte Cène, Jésus doit renforcer ceci. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va s'humilier, puis il va laver leurs pieds pour leur donner l'exemple suprême que le plus grand serviteur, le plus grand, c'est celui qui sert les autres. Alors, il faut qu'il remonte encore, mais Jésus est tellement patient, il prend la peine, il leur montre c'est quoi le bâton de la foi, et puis il leur montre qu'est-ce qu'il doit faire. Et puis, les dernières paroles de Jésus, là, c'est bien, bien important. Il s'en va. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur dire c'est quoi qu'il veut qu'il fasse sur terre. Puis Alexandre va lire dans Matthieu 28, 19 à 20.
Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Alors, les dernières paroles de Jésus pour ses disciples, ceux avec qui il a passé tellement de temps à leur enseigner qu'est-ce qui est vraiment important, va leur laisser ce message-là. Et puis, je crois que les disciples, ils l'ont reçu le bâton. Parce qu'on va voir, sur les 12, Il y en a 10 qui vont être martyrisés pour l'Évangile. Ils vont mourir pour la croix. Jean va mourir sur une île, prisonnier à cause de l'Évangile. Et puis Judas va se suicider. Alors, il a vraiment réussi, Jésus, on peut dire, à transférer le bâton de la foi à ses disciples qui étaient vraiment prêts à mourir pour lui. Un autre bon exemple qu'on va regarder dans le Nouveau Testament, c'est Pierre. Ici, on a la photo de Pierre qui, justement, est sauvé de la prison. Mais dans l'exemple qu'on regarde, là, c'est fini pour Pierre. Là, il est en prison, puis il ne s'en sortira pas, au point qu'il sait, le Seigneur lui a montré. C'est 2 Pierre 1, versets 12 à 15, puis Alexandre encore va nous lire ceci.
Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Oui, j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que je suis dans cette tente, car je sais que je quitterai bientôt ce corps, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ses enseignements.
Alors, Pierre sait qu'il va quitter cette terre. Là, il ne sera plus libéré de prison, mais il va quitter. Il va mourir pour la croix, pour l'Évangile. Mais il y a cette confiance qu'il a enseignée à certaines personnes qui vont continuer à passer le message de l'Évangile à d'autres qui vont continuer. Alors, il peut se consoler sur ceci. On voit le transfert de bâton qui se passe. Un autre exemple, c'est Paul qui donne un très bon exemple de comment transférer le bâton. On sait qu'au début, la première photo, c'est en Actes, lorsque le Saint-Esprit dit aux anciens de mettre à part Paul et Barnabas pour l'œuvre qu'ils vont faire. Ils vont faire le premier voyage missionnaire. Et puis, vous vous souvenez, Barnabas amène son neveu Marc. Et puis, Marc va s'ennuyer et puis il va retourner à Jérusalem. Alors, Paul n'a peut-être pas assez de patience pour lui. Parce que dans le deuxième voyage missionnaire, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Paul et Barnabas, ils ont discuté de qui ils allaient prendre. Et puis, Paul voulait prendre Silas, quelqu'un d'autre, mais Barnabas voulait prendre Marc. Et puis, ils sont séparés. Et puis, Paul va entraîner Silas, il va entraîner Timothée, il va les amener dans son voyage missionnaire. Souvent, il va les laisser dans les villes où que l'église est partie, où que ça va bien. Puis là, il va pouvoir continuer à œuvrer dans d'autres villes, d'autres églises. Et ensuite, ils vont revenir leur joindre. Mais à la fin de la vie de Paul, Paul va dire justement, « Amène Marc, car il m'est utile pour le ministère. » Alors, le temps que Barnabas avait passé avec lui, il a pu l'entraîner. Barnabas, on peut dire, avait été plus patient avec lui. Puis là, Paul reconnaît qu'il va être justement utile pour le ministère. On voit alors la souveraineté de Dieu là-dedans. Au début, Marc, qui n'est pas, on peut dire, fidèle au ministère, mais à la fin, Paul va le reconnaître, et puis ça a permis que Barnabas passe plus de temps avec lui, l'entraîne comme il faut, et que le bâton soit transféré à Marc, à Silas, à Timothée et aux autres. On va voir aussi, lorsque Paul va adresser Timothée, il va l'adresser comme son enfant, en 1 Timothée 1.1, il dit « Mon enfant légitime en la foi », et puis en 2 Timothée 1, verset 1 à 2, il va dire « À Timothée, mon enfant bien-aimé ». Alors, Paul, il prenait le temps vraiment de montrer tout à Timothée. Il va dire même en 2 Timothée 3, 10 à 11, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. » Alors, Paul a vraiment pris le temps d'exposer tout à Timothée pour que lorsqu'il quitte, il va pouvoir se consoler et savoir que le message d'Évangile va continuer. Alors, juste mes petites photos de Paul en prison. C'est que c'est en anglais, là, mais il dit que, exactement, je vais mourir bientôt, mais Timothée, ne sois pas timide, persévère durant les épreuves, ne laisse pas les opposants te t'abaisser et prêche la parole. Et puis il dit, viens rapidement, puis c'est Luc qui va écrire ceci. Oh, demandez à nos volontaires de remonter en avant sur la scène. Joël et Alexandre. Ici, on voit Timothée même doit passer le bâton. Alors, on va le faire en 3, si vous mettez en position de transfert. Alors, c'est comme si Paul va passer le bâton à Timothée. Ici. Et puis, Timothée va le passer à d'autres. Super. On va le refaire une autre fois. soit bien visuel. Alors, comme il faut, Paul passe le bâton à Timothée et puis Timothée passe à d'autres. Merci. Super. Allez. Et puis même, lorsque je réfléchissais à ça, j'ai vu que Timothée avait reçu un dépôt de foi de sa grand-mère qui a été dit, et ensuite de sa mère. Alors même avant qu'il rencontre Paul, il avait eu reçu la foi qui était en lui. Paul va l'encourager et va dire, cette foi que tu as reçue, justement, tu l'as reçue ben, de ta grand-mère et puis de ta mère, et je la vois cette foi-là en toi. OK? Alors, il y a vraiment un transfert. Et puis, Timothée, lui, qui a reçu de Paul tout cet enseignement, cette façon de faire, doit justement le confier. Il dit en verset 2, « Ce que tu as attendu en moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » Pas nécessairement des plus jeunes, mais à d'autres gens qui pouvaient justement l'enseigner à d'autres pour que l'Évangile continue à se transférer. Et puis, on peut être reconnaissant, l'Évangile est venu jusqu'à nous aujourd'hui. Titre 2, verset 1 à 7. Alexandre va lire. Titre 2, verset 1 à 7.
Dit que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leur enfant, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis en étant toi-même, à tout point de vue, un modèle de belles œuvres. Dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux et d'intégrité.
Merci. Alors, verset 2, les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Et les jeunes, les femmes âgées aussi doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, ni n'être médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions. Puis là, on voit au verset 4, pourquoi? Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, à leurs enfants, à être chaste, retenue. Alors, on voit l'exemple qu'il laisse. Il y a un transfert de bâton que les personnes âgées montrent aux plus jeunes. Et puis, même aux plus jeunes, il dit, sois un exemple. Toi aussi, exhorte les jeunes gens à être modérés, te montrant à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Alors, les plus jeunes, ils peuvent courir, même s'ils n'ont pas reçu le bâton de la foi, comme il faut, avant de le recevoir. On donne un exemple, les coureurs, lorsqu'ils sont dans la zone, ils n'attendent pas que le bâton arrive ici, puis là, ils commencent à courir, là. Il faut qu'ils courent pendant qu'ils attendent le bâton, puis qu'ils le reçoivent, puis continuent à courir avec. C'est la même chose. Les autres, même s'ils n'ont pas tout reçu, ils doivent être des modèles, les jeunes gens, puis courir avec le bâton, sans le bâton, mais courir d'une façon exemplaire pour, lorsqu'ils vont recevoir le bâton, ils vont pouvoir le donner à d'autres. On va continuer. Il y a en masse d'exemples de ce qui se passe, de transfert de bâton. Exemple, juste à regarder l'école dimanche qui commence de 3 ans, qui va aux 4 ans, ensuite le 5 à 7 ans, 8 à 12 ans, 13 à 17 ans. Les groupes de jeunes qui se passent les 9 à 12 ans, les 13 à 17 ans. Alors, beaucoup de gens, les moniteurs, passent du temps avec nos plus jeunes pour leur donner le bâton de la vie, pas juste pour enseigner pour eux autres-mêmes et pour avoir un statut, mais justement pour transférer le bâton de la vie à nos jeunes. Je pense à l'exemple à Gabriel et Mélanie. Lorsque j'étais plus jeune, je me souviens d'avoir allé au camp Joie de vivre ici au Cap de la Madeleine avec Gaétan, puis Doris. Et puis la famille Paquin, ils jouaient par exemple des instruments ensemble, faisaient le ministère ensemble, les temps libres. Les parents, ils mettaient l'emphase là-dessus. Et puis Gabriel a donné sa vie au Seigneur pour servir les jeunes. Un peu ce qu'il a vu dans ses parents qui décidaient de justement donner du temps, les temps libres, de passer du temps pour servir les jeunes. Et puis, lorsque Gabriel est revenu d'école biblique, il nous a servi à notre église comme pasteur jeunesse. Et puis, là, il est rendu en Gaspésie. Avant de partir, il a passé beaucoup de temps avec Marco et puis Sarah, et puis leur montrer, passer le bâton pour qu'eux autres aussi, aujourd'hui, sont en train d'investir dans des jeunes pour justement servir Christ. Lorsque j'ai pensé à Raphaël en 2009-2008, on avait un système de mentorat, puis on se rencontrait une fois semaine, on priait ensemble, on lisait la Bible, et puis on s'encourageait ensemble mutuellement. Lorsque je partais à l'école biblique, on a même pu continuer avec ceci, avec ça au téléphone, et puis continuer à s'encourager dans la foi. Et puis avant de monter sur la scène, Raphaël m'a dit « Ouais, j'ai trouvé deux autres musiciens plus jeunes pour justement que, quand je suis pas là, ils peuvent jouer la musique. » Alors on voit que même si Raphaël sera pas là, mais il peut transférer le bâton de la foi, leur montrer que c'est important de servir le Seigneur à d'autres. Je pense à M. Davis, monsieur, je peux dire qu'il était plus vieux, plus âgé, et puis mon père. Lorsque M. Davis se promenait, il était un prédicateur itinérant, il prêchait de petite église en petite église, il amenait souvent mon père pour conduire. Et puis souvent, lorsqu'il venait pour prêcher avant de monter sur la scène, il disait « Ah, Trevor, t'as-tu de quoi de partager de la parole que le Seigneur t'a montré cette semaine? » C'est sûr que c'était sur le spot pour mon père, mais mon père a appris de ça. Et puis aujourd'hui, mon père aime prêcher. Alors, M. Davy n'est plus de ce monde aujourd'hui, il est décédé, il est avec le Seigneur, mais il savait ce qu'il faisait en demandant à mon père de monter sur la scène puis partager ce que le Seigneur avait montré à toutes les fois qu'il prêchait. Alors, je pense, par exemple, Robert et Lucia, qui font, par exemple, les jeunes de l'espoir, lorsqu'ils ont commencé, ils ont amené ou montré aux jeunes, par exemple, l'accueil, mais aujourd'hui, on voit l'accueil, c'est fait par Billy, et puis les jeunes, Marie-Ève Corbin, et puis Bianca. Et puis peut-être plus tard, un jour, ce sera eux autres de faire les déjeuners de l'espoir. Ils ne savent pas, mais peut-être ça s'en vient. Et puis, je pensais à Joannie puis à Lucia. Lorsque je demandais à Lucia d'enseigner l'école dimanche, c'était à condition qu'il y avait un jeune avec elle pour qu'elle puisse justement y montrer c'est quoi, pour que la jeune puisse faire l'école dimanche lorsque Lucia sera plus avec nous. Et puis, lorsque je pensais à Marie-Pierre qui est arrivée l'autre, cet été au face-à-face, elle n'est arrivée pas toute seule, mais elle est arrivée avec Joannie pour justement lorsque Marie-Pierre sera dans le groupe 25-39, mais Joannie puisse continuer au groupe collège et carrière face-à-face. Alors, tu vois, il y a vraiment un transfert qui se passe. Et puis, l'autre exemple, je pensais à Lynn lorsque elle est rencontrée. C'est quoi son nom encore? Pardon? Juliane, merci. Juliane, et puis. Ta fille encore? Olivia, c'est ça? OK. Puis Zoé, un vendredi soir, pour parler de choses de filles, puis magasiner ensemble, passer un bon temps ensemble. Et puis, lorsque Juliane est revenue dimanche matin, elle a retrouvé Lynn, puis elle lui a donné un gros câlin, puis elle était bien contente de la voir. Et puis, justement, on voyait qu'il y a un transfert qui se passe. Parce qu'on sait que, par exemple, plus tard, si Lynn demande, on va aller faire de l'évangélisation aux fermiers, tu sais, ça va être plus facile. Il y a déjà une relation qui se passe. Et puis, elle passe du temps avec eux, pas pour le simple plaisir, mais pour transférer le bâton de la foi. Il y a encore de la place, je dirais, pour dire, un système de mentors. J'ai vu dans d'autres églises, exemple, où que à peu près 50% des jeunes qui sont matchés avec quelqu'un, c'était pas bien compliqué. La façon qu'ils procédaient, c'est qu'un jeune qui voulait avoir quelqu'un pour un mentorat donnait le nom à trois personnes qui pourraient être son mentorat, exemple. Me donner ces noms-là, je n'ai pas de problème à les prendre. Et puis, moi, j'approche ces adultes ou ces personnes plus vieilles, puis j'essaie de trouver une de ces personnes-là qui est prête à vous rencontrer. Ça peut être une fois semaine, une fois par mois. Et puis, vous développez une relation de mentorat le plus vieux qui mentore le plus jeune. Mais c'est ça, c'est pas compliqué. Il faut que vous le demandez si vous êtes plus jeune ou plus vieux aussi, si vous voulez. Puis, vous donnez le nom de trois personnes que vous voudrez qui vous suivent. Et puis, cette personne-là vous rencontre à la fréquence que vous décidez. Et puis, vous avancez dans la foi pour justement transférer le bâton de la foi. Ici, je pensais à la Villa du Carmel. Lorsque on a commencé à inviter des jeunes à notre école, le Seigneur bénit, puis il y a 15 jeunes qui ont pu aller à la Villa du Carmel de mon école, où que je travaille, c'est une école publique, où Sarah et moi, on travaille. Et puis, au début, j'étais tout excité de ça, mais ce qui a fait, on peut dire vraiment, stepper mon cœur, on peut voir, j'ai comme manqué un beat, là. C'était vraiment la cerise sur Sunday, c'est lorsque Olivia a invité un de ses amis de classe à la villa. Puis son ami, elle a accepté de venir. Parce que nous, on sera pas là pour toujours, mais si elle continue à inviter ses amis, mais ses amis, ils vont entendre parler de l'Évangile, et puis ils vont pouvoir venir au Seigneur, puis plus tard, eux autres, ils vont pouvoir en parler à d'autres. Alors c'est important que les jeunes fassent d'invitation de leurs amis non chrétiens à des activités chrétiennes, encore plus que nous, on le fait. Je pense à la Chine. Eux autres, ils savent c'est quoi le transfert du bâton. Parce que vous saviez, une grande partie des pasteurs en Chine, lorsqu'ils sont zélés pour le Seigneur, ils vont justement se remporter en prison pendant 15, 10, 20 ans. Et puis l'Église continue. L'Église ne tombe pas à terre. Il y a 7% de chrétiens en Chine. Une des raisons, c'est par laquelle que lorsque quelqu'un se convertisse, il passe une fin de semaine en dedans, renfermé, à jeûner et prier. Et puis justement, un plus vieux va montrer à un plus jeune comment prier. Et puis ils vont vraiment passer le bâton de la foi de comment prier pour leur pays, prier pour leurs leaders, prier pour leurs amis non-chrétiens. Puis ils vont vraiment montrer comment grandir dans la foi. Alors, c'est pas pour rien que la Chine a une si grande croissance de chrétiens aujourd'hui. Alors, je retourne au dernier passage, aux dernières paroles de Jésus, qui a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je pense à mon héritage spirituel. Exemple, ma passion pour les missions n'a pas été née dans moi, mais ça a été montré par mes parents. Lorsqu'on était jeunes, autour de la table, mon père, on priait tout le temps pour un pays différent dans le monde. Je me souviens encore du nom d'un pays qui s'appelait Papua New Guinea. Exemple, je trouvais ça drôle, le nom du pays, mais c'était vraiment un pays, là, Papua New Guinea. Mais on trouvait ça bien drôle, mais aujourd'hui, ça me reste. Et puis, mon père, il soutenait un missionnaire qui était en Afrique, puis on avait sa photo sur le frigidaire. Mais aujourd'hui, par exemple, on fréquente, moi et Sarah, on lit des autobiographies de missionnaires, mais on faisait ça quand on était jeunes, nos parents nous lisaient des autobiographies de missionnaires. Et puis, ça, nos parents ont su nous inculquer ou nous montrer ceci. C'est pas le fruit du hasard. Exemple, dans ma classe, il y a trois jeunes qui sont passionnés du hockey, mais leurs parents sont, justement, leurs pères, ils sont passionnés du hockey aussi. Ils aiment les Canadiens, ils aiment les Cataractes. Et puis, il y en a qui en parlent, ils en mangent. Mais c'est juste normal. Alors, les plus jeunes vont suivre ce que les plus vieux vont leur montrer. Et puis, c'est bien important qu'on leur montre, qu'on transmet les choses de la foi. Le fondateur d'une mission qui s'appelle Pioneers a bien dit, lorsque les enfants étaient jeunes, ils ont fait par exprès de leur parler des missions et puis avoir des missionnaires dans leur maison pour les exposer aux missionnaires. Et puis, les jeunes, ils ramassaient des sous dans un pot pour justement parrainer un enfant dans le monde, troisième monde. Et puis, ceci, ça les a aidés. Par exemple, l'enfant qui parrainait dans le troisième monde, Indonésie, leur écrivait, puis ils mettaient la photo sur le frigidaire, mais ça gardait, ils disaient, le cœur des enfants battant pour les choses qui se passent dans les autres nations. Les enfants aussi, ils supportaient les missionnaires par eux-mêmes. Ils décidaient qu'est-ce qu'ils allaient faire avec l'argent. Et puis, une fois, ils ont acheté une Bible à une dame qui est restée chez eux, mais elle est partie du Congo. Et puis, elle avait perdu tout à cause qu'elle avait la guerre civile. Mais ils ont acheté une Bible. Puis, 20 ans plus tard, cette missionnaire-là avait encore cette Bible. Comme ça, ils disaient, c'est comme important de montrer à nos enfants l'importance de, par exemple, rouler le tapis rouge lorsqu'on voit nos missionnaires qui œuvrent pour nous dans le monde. Alors, la réflexion se pose. Vous, en 2014, quelles sont les valeurs que vous voulez passer à la prochaine génération? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour passer ce bâton? Est-ce qu'on va vivre pour nous-mêmes? Est-ce qu'on va avoir une bonne vie? Est-ce qu'on veut vivre aisément? Par exemple, si on dit, « Ah oui, je vais vivre pour le Seigneur », mais on passe plus de temps à penser à nous-mêmes, c'est comme le rayon X, les enfants, ils voient à travers nous. C'est pour ça que j'ai mis le rayon X, là. Okay? Alors, réfléchissez à la plus grande joie de ce monde, ça peut être, c'est en servant les autres, peu importe où Dieu nous appelle à le faire. Est-ce que je suis prête à faire l'œuvre du Seigneur en 2014? Peu importe ce que ça me coûtera, est-ce que je suis prête à aller de l'avant? Est-ce que je vais transmettre ceci à la prochaine génération? Quelles sont les valeurs que je veux leur transmettre? Est-ce que j'ai réfléchi à ceci? Dernier diapo pour réfléchir. Lorsqu'on était en Allemagne, on a visité une église qui était gratuite, mais justement qui était juste gardée par l'État pour des visites touristiques. Même si on sait que la réforme protestante est partie à partir de l'Allemagne avec Luther, maintenant, ce n'est plus une église où que les gens se rassemblent, mais c'est un lieu où que les touristes peuvent aller voir. Puis j'ai pensé, on ne voudrait pas la même chose au Cap-la-Madeleine. Si il n'y aurait plus de chrétiens dans l'église, ce serait juste un lieu où que les gens pourraient aller voir notre salle communautaire. Je ne veux pas que ce soit le cas. Alors, on va se lever, on va prier, puis que le Seigneur nous aide à penser à ce qu'on veut transmettre aux prochaines générations pour la foi de l'Évangile. Alors merci Seigneur qu'il y en a d'autres qui ont couru avant nous, puis qui nous ont su, Seigneur, ils ont su nous transmettre ton message. Merci Seigneur que ton message est tellement beau, Seigneur, que tu es mort sur la croix pour nos péchés. Merci Seigneur que tu n'as rien retenu, tu as tout donné, Seigneur, pour nous. Aide-nous, Seigneur, à tout donner pour toi. Aide-nous, Seigneur, à montrer, Seigneur, à nos jeunes et aux plus jeunes et à d'autres autour de nous, Seigneur, c'est quoi la vie chrétienne, Seigneur. T'aimer, Seigneur, de tout notre cœur, toute notre force, toute notre âme, Seigneur. Puis aimer notre prochain comme nous-mêmes. Continue à nous guider, Seigneur, par ton esprit. C'est par nous, en nom de Jésus compris. Amen.